Pupitre est toujours aussi petit. Alors aujourd'hui, c'est bonjour à tous, c'est la fête aujourd'hui. La fête pour plusieurs raisons. Nous avons un week-end prolongé et nous n'aurons pas besoin de répondre à la question « Comment ça va ?» lundi matin et répondre comme un lundi puisque ça sera un mardi. Aussi, ça, c'est la fête parce que c'est l'occasion de pouvoir se retrouver en famille pour fêter, on ne sait plus trop quoi, mais c'est l'occasion de se retrouver en famille et de pouvoir manger ensemble, entre amis aussi parfois. Bref, c'est la fête de Pâques. On voit dans les magasins des chocolats, c'est super cool. Surtout pour les petits, c'est la fête. Pourtant, nous sommes bien loin de la scène que nous rappelle la Pâque, il y a environ 1984 ans. Un homme mourait comme un malfrat, un vaurien, sur une croix, et soi-disant, il aurait ressuscité, en gros, revenu à la vie. Un défi à la raison. En plus, le plus fou, c'est que l'homme l'aurait prédit. Il aurait dit de lui qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. C'est ça la Pâque à la base. Le souvenir de la mort atroce d'un homme, Jésus-Christ, soi-disant pour l'humanité, et la résurrection le troisième jour est sa vie éternelle. Théoriquement, c'est pour ça qu'on a ce jour de fête. Mais Sam, franchement, tu crois encore vraiment à ces sornettes ? Tu sais bien aujourd'hui que c'est sans doute l'un des plus grands obstacles à la foi chrétienne. Alors tu veux fêter ça ? Bien, je te le laisse. Pourtant, et de manière assez troublante, la résurrection de Jésus-Christ est sans doute la preuve la plus puissante que ce que dit la Bible est vrai, que ce que dit Jésus-Christ est vrai et que ce que ce fait est vrai. Mais je vous le laisse pour la fin, en espérant que vous ne soyez pas endormis pendant le message. Ce matin, je vais essayer de vous montrer en quoi cette œuvre, il y a 1984 ans, est-elle le chemin vers la rencontre avec Dieu. Beaucoup de gens aimeraient que Dieu se révèle à eux. Pourtant, Dieu veut ce matin vous dire que l'on peut rentrer en contact avec lui. On pourrait dire qu'il vous donne un rendez-vous quelque part, pas dans une cabane, peut-être pas dans un café. Il n'est pas inaccessible pour avoir un rendez-vous avec vous. Mais cette fois-ci, au lieu de jouer avec votre raison, allez-vous essayer d'accepter cette rencontre ? Merci Stéphane. Allez-vous accepter le rendez-vous qu'il vous propose ? Sans doute, la vraie question qui mène aujourd'hui des millions de personnes à croire et des millions de personnes à refuser de croire. Allons-nous oser la rencontre avec Dieu ? Sans reposer le fondement de l'existence de Dieu, j'aimerais vous amener au lieu où l'on peut rencontrer Dieu. Bien des voix proclament un moyen pour y arriver. Bien des échecs sont constatés dans cette quête. Je vous invite pour cela à lire avec moi Hébreux. Hébreux 7. nous continuons notre série. Et je vais lire au fil versets 19 et 20 du chapitre 6. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus établit grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres, lévitique, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère des prêtres a été changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. En effet, celui qui vise les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident pour lui, mais c'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable, qui ne périt pas. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres, sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit, « Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours. » C'est pour cela que Jésus est garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Je ne sais pas si vous avez entendu souvent des prédications sur Melchisédek. En tout cas, c'est très surprenant comme passage. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous amène à une découverte d'un personnage pour le moins intéressant, surprenant, énigmatique, ce Melchisédek. Et pour nous faire découvrir ce personnage, il utilise deux textes de la Bible. Melchisédek apparaît trois fois dans la Bible, une fois dans l'Épître aux Hébreux, une fois dans Genèse 14 et une autre fois dans le Psaume 110. Une histoire assez étonnante. Le texte est repris de Genèse 14. Nous voyons arriver de nulle part un certain Melchisédek qui est à la fois prêtre et roi. Roi de justice et roi de paix, selon les termes de son nom. Or, ce prêtre, nous dit Genèse, a béni Abraham et en retour, Abraham lui a donné la dîme de tout son butin. Fait étonnant, cette possibilité de prélever la dîme sur Abraham ne lui était pas a priori autorisée, comme cela était le cas par les Lévites sur le peuple. La loi semble non seulement contredite, mais puisque la fonction de prêtre, selon Lévi, est ultérieure, elle est considérée comme plus faible que la précédente. C'est ce que nous dit l'auteur. Pour enfoncer le clou, Melchisédek, en bénissant Abraham, est considéré comme supérieur à Abraham, et donc à sa descendance. La prêtrise, selon Melchisédek, est donc supérieure à la prêtrise, selon la loi lévitique. Pour bien se rappeler, les Lévites étaient ceux qui avaient été choisis par Dieu pour officier dans le temple. C'est pour ça qu'on dit la prêtrise lévitique. La loi avait été donnée par Moïse et les prêtres exerçaient cette loi dans le temple. Et la tribu qui avait été affectée à cette tâche était la tribu de Lévi. La prêtrise selon Melchisédek est donc supérieure à la prêtrise selon la loi lévitique. La loi, une nouvelle fois, ne semble pas avoir en elle-même la perfection. Combien de fois nous croyons que par une telle bonne attitude ou par un tel exercice ou par une telle action, nous allons atteindre une certaine perfection. Toujours est-il que parfois j'arrive à le croire et arrive alors avec le péché qui est sans doute l'un des plus grands, à savoir l'orgueil. Malheureusement, les faits sont têtus, comme disait Lénine. Tout notre système de pensée est toujours basé sur l'espérance que la loi nous rende la vie plus facile. Et pourtant, elle nous amène toujours plus loin du Créateur, en état d'indépendance vis-à-vis de lui. Nous devons prendre conscience que toutes les lois que nous avons érigées pour notre croissance spirituelle ne sont que des substituts malheureux de notre condition humaine. Nous devons avoir confiance que la loi n'a qu'un seul but, nous amener devant notre faiblesse et soupirer après une délivrance qui ne peut venir ni de nos efforts, ni de nous-mêmes, mais d'une personne autre que nous, un souverain, un roi et un intermédiaire parfait, capable de faire ce qu'il faut. C'est alors que nous comprenons ce que veut dire l'auteur. La médiation lévitique instituée par la loi est inférieure à la médiation selon Melchisédek. Mais continuons. L'auteur continue son analyse en montrant que la mention de ce prêtre, roi d'ailleurs aussi, est hors contexte généalogique. Aucune donnée biblique ne fait mention de sa généalogie, ni de ses origines, ni de sa fin. Sachez d'ailleurs qu'en Esdras, des prêtres n'ont pas retrouvé leur arbre généalogique et ils n'ont pas pu officier dans le temple. Ils ont été chassés de leur fonction. Mais là, c'est différent. Il est vivant, nous dit le texte, et représente le Fils de Dieu, celui qui aura une fonction de prêtre pour toujours, qui ne sera pas soumis à la mort et qui sera établi sur la puissance d'une vie qui n'a pas de fin, une vie impérissable, nous dit le texte, sans que sa médiation, sans que son intermédiation, sans que la liaison qu'il fasse avec Dieu puisse prendre fin. Il modifie donc la prêtrise ancienne, car sa vie n'a pas de fin. Il a donc une fonction qui n'est pas assujettie à la mort. Il a une fonction qui ne se transmet à personne. Conclusion de l'auteur, il peut donc sauver parfaitement toutes les personnes de tous les âges qui s'approchent de lui. Il peut donc aussi prier en notre faveur, toujours. En un mot, la mort n'a pas d'emprise sur lui. Et quelque part, c'est le triomphe de la résurrection qui est identifié. Sans celle-ci, sa fonction de médiateur n'aurait pu être que partielle. Le caractère intemporel de l'œuvre de Christ est le gage d'un salut parfait pour toujours. Aujourd'hui, toujours, la mort nous rappelle à quoi notre humanité nous renvoie. Elle nous renvoie à la conséquence de notre péché, à savoir la séparation d'avec notre Dieu, le Créateur. La mort n'a jamais été souhaitée par Dieu, mais c'est nous qui, en désobéissant, avons souhaité préférer celle-ci. Pourtant, aujourd'hui, elle est notre plus grande lutte. Même si nous courons dans la vie comme si nous étions immortels, la maladie, le deuil, la souffrance sont là comme des piqûres de rappel à un monde qui court, il ne sait où. C.F. Lewis a écrit que la souffrance était le porte-voix de Dieu dans un monde sourd. La mort est là pour nous rappeler l'issue de nos vies. Elle nous permet de donner à nos vies la juste perspective, même si malheureusement une conscience un peu plus exercée à la mort nous ferait beaucoup de bien dans notre quotidien. Mais la mort est là pour nous rappeler, encore une fois, notre péché. Celui-ci est insupportable vis-à-vis de Dieu, et il a nécessité la médiation d'un fils qui a dû mourir, nous dit notre auteur, comme sacrifice parfait. La mort nous permet de tourner nos regards sur notre déchéance. C'est alors qu'au sein même de cette déchéance, nous pouvons entrevoir la porte d'un libérateur. Accepterons-nous de tourner nos regards vers celui qui a un ministère, une fonction qui ne prend pas fin et qui attend une seule chose, que l'on vienne à lui pour lui donner la vie éternelle, celle qui s'est acquise au prix d'immenses souffrances. Mais cette prêtrise selon Melchisédek, a été étonnamment validé une nouvelle fois par le serment. Le serment de Dieu sur une prêtrise en particulier garantit le caractère meilleur une nouvelle fois de cette nouvelle loi. Les Lévites étaient prêtres non selon le principe d'un serment, mais sur le simple fait de leur naissance, ce qui n'est pas le cas de Jésus, selon le psaume 110. Le Seigneur l'a juré, il ne se rétractera pas. Ce serment vient garantir, valider de manière définitive et totale le caractère parfait de la médiation de Christ. Nul doute possible après. En plus, celui qui fait le serment est plus grand. Il valide d'autant plus la fonction de médiateur. Le serment est le gage d'une tierce personne. Elle qualifie une nouvelle fois le nouveau prêtre selon le nouvel ordre. La faiblesse des hommes ne pouvait leur permettre une médiation parfaite. Par contre, la parole de Dieu, comme serment sur l'œuvre de Christ, est une nouvelle fois une aide puissante à notre mémoire pour savoir et saisir que celle-ci est véritable, totale et parfaite. La parole de Dieu est garant de l'œuvre parfaite, totale de Christ. Une nouvelle fois, nous ne devons pas fonder notre vie spirituelle, notre foi sur des miracles ou sur du tape à l'œil, mais sur la seule parole digne de confiance, à savoir la parole de Dieu. Je suis toujours interpellé, car j'aime énormément lire des ouvrages chrétiens sur tout sujet. Pourtant, je lisais un jour, un soir, un article sur Internet qui mentionnait que cet auteur qui écrit beaucoup, qui lit beaucoup, n'avait plus assez de temps pour faire tout cela et s'était concentré à une seule tâche, lire la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu a la puissance pour nous garder les yeux fixés sur ce qui est parfait, nécessaire pour nous. Nous devons le saisir et le vivre à tout prix. Les faits sont donc tragiques pour les Juifs de l'époque. Et je me mets à leur place. Ils avaient dans leur tête une façon d'adorer Dieu et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de tout remettre à plat et de tout leur dire, non mais bon, ça c'était que l'ombre de ce qui est bien meilleur. C'était inutile. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de parfait. Mais la loi lévitique ne pouvait ôter le péché et amener quoi que ce soit à la perfection. Cette loi nous dit, l'auteur, ce n'est pas moi qui le dis, était inutile et impuissante dans le service de la fonction de médiateur vers Dieu. Christ, au contraire, est le médiateur parfait en la personne de Melchisédek. Melchisédek est donc le type de Christ. Rien n'est à ajouter à son œuvre. Rien n'est à ajouter à ce qu'il a fait pour nous. Nos péchés passés, présents, futurs, sont tous pardonnés et la présence de Jésus aux côtés du Père en est la preuve. En tant que grand prêtre, il est notre avocat, le médiateur entre nous et Dieu. Il veut notre bien et intercède pour nous auprès de son Père. Pas besoin d'autres médiateurs terrestres. Le grand prêtre lévitique se présentait une fois par an afin de plaider pour le pardon de ses péchés et du péché de la nation d'Israël. Christ, lui, au contraire, intercède continuellement auprès de Dieu pour nous. Sa présence auprès du Père confirme que nos péchés ont été pardonnés et cette merveilleuse assurance nous libère de la culpabilité et de la peur de l'échec. Si nous avons placé notre foi en lui, Christ a payé une fois pour toutes pour nos péchés. Nous devons constamment nous en souvenir. L'insistance sur le rôle de Christ dans ce chapitre est telle qu'elle nous conduit à penser que nous ne devons ni ne pouvons rien faire pour que le salut devienne une réalité pour nous. Et c'est vrai, Jésus a tout fait. Il n'a rien que nous puissions faire pour perfectionner son œuvre. Rien de ce que nous faisons n'amènera à Dieu à mieux accepter son sacrifice. Mais alors comment jouir de ces bénéfice de cette œuvre. Nous devons accepter le don de salut par la foi en plaçant notre confiance en lui. Il suffit de le faire par la prière. Nous venons de découvrir la fin d'une loi et le début d'une nouvelle. L'imperfection d'un système et la perfection d'une personne. L'imperfection d'une prêtrise instituée, remplacée par la perfection d'une vie historique vécue pour Dieu. L'imperfection matérialisée par l'assujettissement à la temporalité, à la faiblesse du temps, remplacé par la perfection ouverte, par une vie qui n'a pas de fin, une fonction qui n'aura jamais de fin, puisque celle-ci officie éternellement à la droite de Dieu. L'imperfection vécue dans l'humanité, remplacée par une fonction validée par une parole de Dieu par ferment. L'imperfection d'une œuvre constamment renouvelée, remplacée par un sacrifice accompli une fois pour toutes, qui ouvre une fois pour toutes l'accès à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est très clair. Nous pouvons nous approcher de Dieu maintenant sans problème par ce nouveau grand prêtre roi. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, nous dit le texte, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais sans doute, et c'est là le plus grand drame pour le postmodernisme et pour les gens de notre époque, à savoir que Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas plusieurs. Ceux qui s'approchent de Dieu au travers de lui seront sauvés, délivrés du poids de leurs péchés et rétablis dans leur communion avec le Créateur. Il n'y a malheureusement pas de place pour une autre voie. Deux solutions, soit ce que la Bible dit est fausse, et auquel cas ce que Jésus-Christ dit est faux, et la Bible ne mène pas à Dieu, ou elle dit la vérité, et auquel cas un seul médiateur existe entre Dieu et les hommes, et ce médiateur est Jésus-Christ, parfait dans sa fonction. Il faut choisir. Mais la mort de Christ n'aurait pas été suffisante pour nous sauver, à savoir nous permettre de renouer le contact avec Dieu, si la résurrection n'était pas présente. Car celui-ci ne pourrait pas intercéder pour nous aujourd'hui, hier et demain, pour que notre foi ne défaille pas. La résurrection de Jésus-Christ est le gage, le sceau de la permanence de son œuvre dans le temps, dans l'espace et au travers des millénaires. Elle est la certitude que l'œuvre de Christ est définitive, totale et parfaite. Rien n'est à ajouter, rien n'est à retrancher. Lui seul est digne d'être considéré comme le moyen pour accéder à Dieu et pour rencontrer Dieu. Malheureusement, cela suppose de croire en la résurrection de Jésus-Christ et à ce que nous fêtons à la Pâque. Alors, que faire ? Que faire pour essayer de vous convaincre ? Je ne vais rien faire. Seul le Saint-Esprit nous attire à lui-même. Au défi de la raison, que nous lance la raison par rapport à la résurrection, j'aimerais vous raconter comment Charles Colson, avocat et conseiller du président des États-Unis, Richard Nixon, a découvert que la résurrection est la plus grande preuve que la Bible est vraie et que ce que la Bible dit sur Jésus-Christ est vrai et que Jésus-Christ est soit le seul moyen et l'unique de l'humanité. La résurrection est la plus grande preuve de ce que dit la Bible. Et pour cela, je vais lire une partie de son livre. Conseiller du président, il fut au centre de l'affaire du Watergate, des écoutes téléphoniques qui ont mal tourné et qui touchaient un petit nombre de personnes. Ce petit nombre de personnes a conspiré pour masquer ces écoutes. Or, dans cette affaire, il apparaît tout à fait intéressant que les actes graves de dissimulation qui ont été qualifiés de criminels ont commencé le 21 mars 1973 et toute l'affaire éclata et s'effondra le 8 avril 1973. Ainsi, alors qu'était en jeu l'administration la plus puissante du monde, même un petit groupe de fidèles triés sur le volet, nous n'étions pas plus de 10, fut incapable de garder secrète sa conspiration plus de 18 jours. Pensez pourtant à l'ampleur de la scène. Chacun de nous croyait passionnément au président Nixon. Pour entrer dans son gouvernement, nous avions abandonné des carrières très lucratives, d'avocats ou autres. Nous avions sacrifié nos vies privées. Nous avions investi notre vie entière dans ce travail, 24 heures sur 24. Quelques mois à peine nous séparaient de la réélection du président. Une victoire écrasante, historique, triomphale. L'atroce guerre du Vietnam était enfin terminée. Nous étions au sommet de la réussite à tous égards. Pensez au pouvoir que nous avions entre les doigts. Un seul ordre de l'un de nous pouvait mobiliser des généraux, des membres du cabinet, voire des armées. Nous pouvions engager ou renvoyer des collaborateurs et gérer des budgets se comptant en milliards. Pensez aux privilèges. Un coup de fil à l'administration militaire et nous disposions d'une limousine ou d'un avion à réaction. La National Gallery prêtait des tableaux de maître pour orner les murs de nos bureaux. Des valets de chambre en veste rouge se tenaient prêts à nous servir, à manger et à boire 24 heures sur 24. Où que nous allions en voyage, surgissaient des téléphones privés. Des hommes du service de protection étaient toujours à la portée de vue, aussi nombreux que nous le souhaitions. Mais la perspective de compromettre le président après avoir travaillé si dur à assurer son élection, de perdre le prestige, le pouvoir, le luxe de leur bureau personnel n'a pas pu empêcher ces hommes de passer aux aveux. Tous sont passés aux aveux, se tirant les pattes les uns les autres. Pourtant, à y réfléchir aujourd'hui de près, la contrainte morale n'était pas très forte. Il y avait déjà eu des conduites contraires à la morale, des infractions criminelles, de faux témoignages de la part de certains. On allait, c'est vrai, au-devant de graves ennuis. Au pire, quelques-uns risqueraient d'aller en prison, encore que ce n'était nullement certain alors. En tout cas, personne ne courait de graves dangers. Personne ne risquait sa vie. Malgré cela, très vite, l'intérêt personnel prenaient le dessus et les conspirateurs, l'un après l'autre, abandonnaient leur chef, désertaient la cause qu'ils avaient défendue, tournaient le dos au pouvoir et au prestige et au privilège. Quel rapport, me diriez-vous, avec la résurrection de Christ ? C'est très simple. Les critiques modernes contre la résurrection de Jésus-Christ se résument en un point. Ils ont enlevé complet le sens de la Pâque. Les premiers chrétiens ont subtilisé le corps de Christ dans son tombeau pour le faire disparaître ailleurs et garder jusqu'à leur dernier souffle le silence sur cette conspiration. Voilà ce que disent ceux qui contestent la résurrection. Si l'on veut contester l'historicité de la résurrection et par là la divinité de Christ, on doit admettre une conspiration alors tramée entre 11 hommes avec la complicité d'au moins 500 autres. Pour souscrire à cette théorie, il faut en outre croire que chaque disciple acceptait d'être rejeté par sa famille et ses amis, de connaître la peur quotidienne de la mort, d'endurer la prison, de vivre dans la faim et la pauvreté, de renoncer à fonder une famille, d'être torturé sans merci et enfin de mourir. Tout cela sans jamais renier l'affirmation selon laquelle Jésus-Christ était ressuscité. Voilà pourquoi l'expérience du Watergate est pour moi si instructive. L'affaire du Watergate révèle, à mon avis, la vraie nature de l'homme. Aucun de ceux qui ont publié ensuite leur mémoire ne suggère que quiconque se soit rendu dans le bureau du procureur pour des motifs nobles, tels que la volonté de faire passer la Constitution avant la personne du président, d'amener des malfaiteurs devant la justice ou simplement l'indignation morale. Au contraire, ces récits rappellent constamment la fragilité de l'homme. Même des zélateurs politiques au sommet du pouvoir ne songèrent au moment critique qu'à sauver leur peau, fût-ce aux dépens de celui qui déclarait servir avec tant d'ardeur. Est-il dès lors vraisemblable qu'une conspiration, un complot destiné à perpétuer un mensonge au sujet de la résurrection, ait pu survivre aux violentes persécutions qu'ont subies les apôtres, à l'examen minutieux des premiers conciles de l'Église et aux effroyables massacres du premier siècle où les croyants étaient jetés aux lions par milliers parce qu'ils refusaient de nier la seigneurie de Christ. N'était-il pas normal de penser que l'un ou moins des apôtres aurait renié Christ plutôt que d'être décapité ou lapidé ? N'est-il pas probable que l'un ou l'autre aurait divulgué un document secret, sûrement pris contact avec les autorités pour monnayer ses révélations ? Le gouvernement et le Sanhédrin l'auraient sans doute accueilli à bras ouverts. Les faits sont là, nous dit Charles Colson. Ces preuves ont assez de poids pour me convaincre que les apôtres disaient effectivement la vérité. Jésus est bien ressuscité corporellement. Il est bien celui qui disait être. La résurrection n'est donc pas une croyance secondaire, une vulgaire pacotille, une invention. Non, elle est la pierre angulaire de notre foi, celle qui nous assure un libre accès auprès du Père. Car le Christ intercède pour nous indéfiniment. Lui qui a pénétré au travers du voile et qui s'est approché de Dieu. Il a ouvert le chemin vers le Père et nous a donné la possibilité de prendre un café avec lui, de pouvoir le rencontrer. Nous pouvons désormais être réconciliés avec lui et redécouvrir la joie de la liaison rétablie avec Dieu, le Père, le Créateur, celui qui nous connaît et qui nous aime par-dessus tout. Voilà le grand prêtre que nous avons, le sauveur parfait pour l'éternité. À nous de la saisir pour la vie éternelle. À nous de la vivre et de proclamer un monde qui court vers l'absurdité d'une vie qui n'a aucun but et aucun sens. À nous d'être fiers de proclamer la croix et la résurrection de Christ comme le centre de notre foi. C'est à ce prix-là que Dieu sauvera encore des hommes et des femmes aujourd'hui. Prions. Père éternel, merci parce que ton office est un office parfait. Ta médiation parfaite. Je n'ai plus besoin de personne pour accéder à toi. Ton Fils Jésus-Christ est celui qui nous permet d'accéder. Merci Père éternel parce que ma foi est fondée sur la vie de personnes qui ont été prêtes à mourir pour elles. Et pas seulement un seul ou deux. Mais aussi, Père éternel, merci parce que ta parole, ton serment, vient valider l'œuvre parfaite de Christ et cette fonction de médiateur pour toujours. Merci parce que aujourd'hui encore, tu tends la main à ceux qui ne te connaissent pas. Tu tends la main à ceux qui pensent que la foi chrétienne est une idiotie. Tu tends la main à ceux qui n'ont pas d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, à ce jour de Pâques, nous désirons nous rappeler de l'espoir magnifique que nous avons maintenant. Un espoir qui n'a pas de fin, qui se projette dans la vie éternelle avec toi. Merci Père éternel de cette œuvre immense que tu as fait pour nous.